Salut, excuse-moi, je peux t'embêter deux minutes?
Ouais, j'aime pas trop parler à la radio.
C'est Radio Canu, c'est différent.
Ah, d'accord.
La SNCF prévoit aujourd'hui 150 TGV au départ ou à l'arrivée de Paris, c'est-à-dire 1 sur 4. Il n'y en avait que sur cette île.
Passez le mot.
Ce ne sera pas nos représentants syndicaux qui décideront si le mouvement doit continuer ou pas. Ce sera vraiment de la base. Et c'est vrai qu'on a un joli outil pour bloquer un pays. C'est vrai qu'on a cette chance-là. C'est vrai qu'en une demi-journée, on peut vous mettre un pays à sac. Là, on est gentil pour l'instant. Mais plus on avance, et plus on devient désagréable maintenant. Donc, ouais.
C'est le mot.
Sur les luttes, par ceux et celles qui font.
Eh ben salut à vous, c'est Passer le mot, je pense que vous avez compris maintenant, rendez-vous quotidien d'information, tant que les mouvements sociaux seront bien actifs comme c'est en ce moment, je pense que ce rendez-vous quotidien de 13h durera jusqu'à la fin de la semaine au moins, et aujourd'hui on sort juste de la manif qui est en train de se terminer vers Bellecour, donc du coup... Petit point d'information un petit peu désorganisé, mais on rappelle que c'est à vous de nous faire remonter les informations en appelant au 04 78 29 26 00. 04 78 29 26 00. On va quand même parler un petit peu de cette manifestation d'aujourd'hui, de la lutte des cheminots qui continue et des nouvelles des campus de Lyon 2 principalement qui ont fait des AG hier. Et on commence avec un petit point sur la manif qui était massive.
Il y avait énormément de monde. Tous les syndicats étaient présents en tête de cortège, etc. Et il y avait également un cortège no logo, il y avait également des étudiants, etc., qui s'étaient joints au cortège, des lycéens également, qui vont se retrouver là en ce moment à 13h sur les quais à l'Université Lyon 2 pour discuter de leur mobilisation éventuelle, sachant qu'il y a déjà des lycées qui sont bloqués un petit peu partout en France. Alors c'est pas encore quelque chose de massif, mais ça commence. Voilà.
Il y a des personnes qui sont allées dans les lycées ce matin, sauf que les profs étaient en grève, du coup il y avait personne dans les lycées, mais de toute manière les lycéens sont assez grands pour venir tout seuls et ils étaient d'ailleurs nombreux aussi à la manif tout à l'heure, il y avait une centaine à peu près de lycéens.
Ouais, il y avait même une banderole des lycéens Belleville, Villefranche, Trévoux qui s'étaient regroupés, un petit cortège. J'ai vu le bahut, il y a un bahut qui s'appelle le collège des Canus, le lycée des Canus. Sur la, je crois,
Avant-Velin.
Ouais, c'est ça. Ils avaient une banderole aussi, donc ils étaient déjà bien présents. Enfin, il y avait des petits cortèges en tout cas.
Sinon, dans la manif, il y avait aussi énormément de policiers et CRS qui manifestaient pour leurs régimes spéciaux. Et il y a une pancarte qui me semble intéressante, du coup, en dehors de l'esprit juste corps. Enfin, bref, de la simple demande de... pour garder leurs régimes spéciaux, qui était sur une critique un peu interne de leur manière de travailler et puis des exigences de faire du chiffre qui est, du coup donne un travail vraiment absurde et encore plus absurde et qui est une des pancartes était tous les jours je lave mon cerveau avec culture du résultat et les trois lettres de CRS pour consommable républicain sacrifié. Donc juste je trouvais intéressant qu'il y ait des critiques même internes à leur milieu.
Et puis on rappelle qu'il y a une interview qui tourne depuis un petit moment sur internet à ce propos, qui est l'interview d'un policier repenti qui a arrêté devant le travail qu'on lui demandait de faire, qu'on peut trouver sur le site regardeavue.com. Et ça nous montre bien comment marche toutes ces techniques de faire du chiffre. Il nous explique bien aussi que la BAC, qui s'appelle Brigade Anticriminalité, ne ramène pratiquement jamais de crimes au commissariat, mais que des petits délits, enfin que tous ces dysfonctionnements assez intéressants. Je pense que la majorité des policiers qui étaient pris dans la manif étaient quand même là pour travailler, pour surveiller. Il y avait encore une fois beaucoup de RG, de flics en civil présents sur tous les alentours. Là maintenant, dès qu'il y a des grosses manifs comme ça, il y a carrément des grillages à l'entrée, par exemple, d'un cours qui part des quais pour empêcher, je sais pas quoi, enfin vraiment pour canaliser le groupe et qu'il n'y ait pas de débordement. Mais quand même des flics qui manifestent. Quelque chose à rajouter sur cette manif qui n'est pas finie?
Bah, qu'on pourra peut-être la retrouver en sortant du studio.
Voilà, il devait être à Bellecour. En tout cas, présence massive, on ne peut pas avancer de chiffres, mais c'était vraiment énorme. En parlant de chiffres, on peut lire dans les médias qu'il y aurait de 40 à 60% de grévistes dans l'éducation nationale aujourd'hui, qu'il y a plus de grévistes à la SNCF aujourd'hui qu'hier, donc que la journée un petit peu de convergence de tous les fonctionnaires leur a redonné de la motive. Et puis il y a toujours cette propagande des médias qui dit qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent le boulot. Alors c'est des trucs qu'on voit pas du tout sur le terrain, c'est un petit peu comme chez les étudiants, on entend dans les médias que l'UNEF et on les voit pas dans les AG. Mais là les médias nous disent que le travail reprend, et quand on va sur les piquets de grève ou quoi, il y a personne qui reprend le travail. Donc peut-être c'est des sources différentes, peut-être c'est des idées différentes qui sont défendues. On devait parler un peu des étudiants.
Pour les étudiants, j'ai eu des informations un peu sur ce qui se passe à la DOI. Donc c'est très timide ce qui se passe à la DOI, parce que toutes les personnes qui sont contre la loi Pécresse se réunissent et font des AG. Mais au niveau des décisions, des stratégies d'action, l'éventualité du blocage apparemment n'est même pas abordée. Et ils votent encore, ils votent des... Par exemple, la possibilité de diffuser des tracts d'information à l'entrée des amphis, et ils votent pour des questions comme ça. Du coup, on n'est pas encore à la question même du blocage ou de quelque chose qui serait un peu offensif.
La DOI, c'est Lyon 1.
Mmh. C'est ça. Ok. Donc on vient d'appeler pour nous donner les chiffres de la manif, et il y aurait entre 10 et 15 000 personnes qui participeraient actuellement, puisque la manifestation est loin d'être finie, qui participeraient actuellement à la manifestation. Voilà.
Moi j'aurais dit plus, moi.
Hey.
10, 15 000. Sur Lyon 2, ça a pas mal bougé hier avant de... On était, pendant que tu étais en train de répondre, on était parti sur les étudiants.
Ouais, vous avez parlé de ce qui a été voté exactement?
Non, pas du tout.
Donc les chiffres varient également pas mal en fait, selon les sources, sur le nombre d'étudiants qui étaient présents sur le campus de Bron hier pour discuter de la suite du mouvement, s'il fallait arrêter ou pas le blocage, etc. C'est entre 1500 et 2000 personnes quand même qui étaient présentes pour discuter collectivement, enfin si on peut discuter collectivement à 1500 ou 2000, mais voilà, un petit peu quand même. Et donc il y a un certain nombre de choses qui ont été votées. Donc le truc principal, c'était reconduite ou non du blocage, sachant qu'il y a eu une fermeture administrative depuis jeudi des deux principaux sites de Lyon 2, c'est sur les quais et à Bron, et que les deux journées de lundi et mardi étaient des journées dites banalisées. Enfin, ça avait été décrété unilatéralement par la présidence pour dire qu'il y avait un espace de débat qui était laissé aux étudiants pour discuter de la loi Pécresse, mais qui permettait également une reprise partielle des cours au final.
Et il y a eu une proposition de la part de l'administration d'un vote électronique, mais à la manifestation, ça a été largement appelé au boycott de ce vote électronique, en soulignant l'hypocrisie de la présidence, qui parle de son attachement à la liberté de discussion, au débat démocratique et à la nécessité du respect des personnes, donc entre guillemets, car c'est en même temps lui qui, enfin c'est Ça paraît vraiment comme hypocrite et c'est très mal perçu du coup ces paroles-là suite au saccage des locaux qui a été de vendredi. Ouais. Et du coup ça a encore d'autant plus de mal à passer ces discours de respect des personnes.
Ouais, saccage des locaux plus évacuation de Lyon 2 quand même sur les quais. Enfin, une évacuation de fac par des gardes mobiles, c'est pas quelque chose de très très courant. Comme on est dans une France un peu apathique, il y a très peu de réactions, soit du corps enseignant, soit du reste du monde universitaire par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui, il y a quelques années, aurait vraiment fait un tollé. Donc le président, les vice-présidents profitent un petit peu de cette apathie générale pour faire un petit peu comme bon leur semble et ne pas respecter les décisions qui avaient eu lieu dans l'après-midi de jeudi sur l'occupation de la fac dans une assemblée générale qui a priori est souveraine et avait évacué et ensuite le lendemain matin avait donc brûlé des papiers dans des locaux associatifs et syndicaux, viré du mobilier, etc. Et alors maintenant on reçoit pléthore de communiqués pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et que c'était pas mesures d'hygiène, ils sont gentils, ils sont allés faire le nettoyage à l'intérieur des locaux associatifs. Je pense que
ils ont parlé de...
les gens n'en demandaient pas tant.
Ils ont parlé de désamiantage.
Oui, ils ont aussi parlé de désamiantage. Enfin, ils en peuvent, ils arrivent plus à trouver de raison et voilà. Enfin bon, bref. Toujours est-il qu'il y a une très très grosse défiance vis-à-vis de la présidence. Donc maintenant sur le campus de Lyon 2, ça se cristallise vraiment autour du président Journès, autour du vice-président Chvetsov et également d'un autre vice-président qui était présent sur les lieux vendredi matin pendant le saccage. Donc il a été voté a priori, donc on n'a pas exactement les chiffres, mais a priori ce serait 40% de personnes qui auraient voté pour la démission du président et de ces deux personnes, et de Chvetsov et de l'autre vice-président. 10% qui se seraient abstenus et le reste... 50% qui se seraient abstenus et 10% qui auraient voté contre. Donc, selon le débat démocratique, les 40% l'emportent et Journès, qui est favorable au débat démocratique, enfin, à l'organisation du vote démocratique, devrait démissionner prochainement. Enfin, on y croit. Bref, sinon, le blocage a été reconduit à une écrasante majorité, donc on n'a pas les chiffres. Ça a fait l'objet d'un débat sur Rébellion, comme on a pu le voir dans l'article qui relatait un petit peu les décisions de cette assemblée générale. Donc il y a des gens qui parlaient de 70% de vote pour le blocage, de 20% contre le blocage et de 10% d'abstention. Voilà, donc c'est des chiffres qui sont c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de comptage réel pendant l'assemblée générale parce que la majorité était, enfin là, il y avait tellement une majorité écrasante pour le blocage qu'il n'y a pas eu besoin de compter. Voilà, sachant qu'il y avait aussi des gens qui étaient contre le blocage, qui faisaient partie du bureau pour juger de l'issue du vote. Dans le même temps, même s'il y a que, enfin, il y avait 20% de personnes qui s'opposaient au blocage, 95% des gens a priori présents donc hier à cette assemblée générale étaient pour la poursuite de la grève et a ensuite été appelé le boycott du vote électronique organisé demain par la présidence sur le site web de la fac, etc. Alors pour différentes raisons, on va peut-être pas forcément revenir dessus, mais la principale c'est que le vote électronique comme ça empêche tout débat entre étudiants pour décider de leur avenir, etc. C'est la question, elle est formulée, on ne sait pas par qui. Ensuite, il y a aussi des problèmes d'anonymat des personnes qui votent. Enfin voilà, c'est quelque chose. Et puis surtout, le truc, c'est que ça, c'est complètement en contradiction avec toute l'organisation des mouvements de personnes dans tous les endroits. Enfin voilà, c'est même plus du vote à bulletin secret, c'est du vote à distance, etc.
Non, et puis c'est, enfin, la politique, c'est pas voter quoi. La politique, c'est justement discuter, réfléchir, établir des discussions, enfin des consensus ensemble. Et quand on doit voter pour séparer deux propositions, on le fait. Mais enfin. Qui est juste un vote comme ça sert vraiment à rien quoi. Enfin,
c'est clair. Donc boycott demain du vote électronique organisé par la présidence et reconduite du blocage jusqu'à lundi prochain. Voilà, donc ça c'était pour les facs. Il y a également eu des débats à l'IEP, il y a certainement des débats également à Lyon 3, il y a eu un débat à l'ENS dont on attend aussi les résultats. Donc nous, on n'est pas des reporters. Si vous voulez nous passer l'information pour qu'on passe le mot, Vous envoyez un article sur Rebellion, vous envoyez un mail à contact@rebellion.info, vous appelez au 04 78 29 26 0 0. Donc vous avez vraiment aucune excuse pour que l'information soit autonome et ne dépende pas des médias dominants. On fait une pause musicale et puis on parle un petit peu des cheminots.
Partout haï, tout le monde voulait toujours le frapper. Il arrivait à énerver le plus mollasson des hippies. C'était un type pas très chanceux, l'inconnu lui collait un pain. Et ceux qu'il connaissait très bien, à chaque fois lui en mettait deux. C'était le mec Jean Sarkozy qu'à l'école tout le monde martyrise. Et que la vengeance galvanise pour devenir chef de parti. C'était un type aux yeux de fouine qui dénonce celui qui discute. Que tout le monde traite de fils de pute, que l'on la dépique qu'on piétine. Cours de droite, très fier de sa cravate. Cours de droite, bien cato, bien réac, et bien droit dans ses bottes. Aux yeux de traître comme on en fait dans les péplums. La tête couverte d'hématomes, le genre que jamais on regrette. C'était le genre que les chiens morts d'instinct juste parce qu'ils puent la haine. Et dont la démarche de hyène dissuade de toute miséricorde. Le genre de mec qui aux trois jours gueulait qu'il voulait s'engager. Qu'il fallait bien une armée, n'a pas pu finir son discours. Ce petit arriviste ambitieux devint un brillant étudiant qui souriait de toutes ses dents au milieu des autres têtes d'honneur. Cours de droite, très fier de sa cravate. Cours de droite, bien carton, bien réac, et bien droit dans ses bottes. Il était largement assez con. Et sa face de joyeux lion brillait au défi de Jeanne d'Arc. C'était le salaud qui doute de rien en crédant toutes ses certitudes. Qui considère le monde comme sien qu'il a appris dans ses études. Il disait je suis capitaliste, on savait même pas ce que c'était. A tout hasard, on tapait dessus, on n'était pas très cultivés.
C'est vrai.
Je l'ai revu dans une manif, c'est lui qui tenait la matraque. Il était beaucoup moins chétif, mais toujours autant tête à claque. Cours de droite, très fier de sa cravate. Cours de droite, bien cato, bien réac, et bien droit dans ses bottes.
Au piquet de grève de Perrache hier, 10h30.
Donc la grève, contrairement à ce qui est annoncé partout, est vraiment très très forte. À l'heure actuelle, on se bat pour nous, notre régime spécial à 37 ans et demi. Mais il ne faut pas oublier qu'on se bat pour tous les gens du privé. Parce que les gens du privé, l'année prochaine, c'est 41 ans, voire 42, voire 43. Donc la lutte, à l'heure actuelle, elle est pour nous, mais aussi pour les gens du privé. Ça, il faut bien qu'ils comprennent. N'écoutez pas certains médias, style TF1, style Antenne 2, ils ne vous disent pas la vérité du terrain. Voilà. Donc on ne lâchera surtout pas sous un chantage odieux qui est de dire vous arrêtez la grève, on négocie. Ça ne s'est jamais fait. À chaque fois qu'on a essayé ce style de transaction, excusez-moi le terme, on s'est fait avoir grave. Voilà. Alors actuel sur le CT de Lyon, c'est-à-dire les établissements commerciaux, trains, les contrôleurs, le chiffre est de 96% à Lyon, 100% à Saint-Étienne et 100% à Valence. Voilà, on est égalité avec les Marseillais, on n'a pas réussi à faire aussi bien qu'eux.
On ne va pas battre le monde, mais on est voilà.
Donc la grève est très très forte et beaucoup d'endroits où les gens disent les conducteurs ont repris, les conducteurs qui appartiennent au syndicat FJAC sont en désaccord avec leur fédération et sont en grève avec nous. À part la CFDT qui nous a enculés, mais ça...
Et on arrive justement sur les cheminots qui sont toujours en grève aujourd'hui. On nous annonce même un taux de grévistes encore plus fort à la SNCF en tout cas qu'hier. Et t'as des chiffres.
Alors les infos, ça concerne essentiellement le collège des contrôleurs. Voilà, sur Lyon où le taux de grévistes est relativement stable. Stable quand même à un niveau assez élevé puisque il y a 95% de grévistes à Lyon, Saint-Étienne, et je me rappelle plus, la dernière ville concernée, 95% de grévistes chez les contrôleurs, et donc tout collège confondu sur toute la France, il y a entre 27 et 30%, et sachant que sur Lyon, la mobilisation est plutôt relativement forte chez les cheminots. Donc ce matin a été votée à nouveau la reconduction de la grève pour 24 heures, et a été décidé que demain, dans l'après-midi, il y aurait une délégation à la direction régionale de la SNCF, pour mettre un petit peu la pression avant ou pendant l'ouverture des négociations à Paris. Voilà, sinon le copain avait l'air de dire qu'ils avaient besoin de soutien un petit peu parce que voilà, ça commence à faire 7 jours qu'ils sont en grève et que la pression des médias sur une reprise, ça fait 7 jours qu'on nous dit que ça reprend à la SNCF, donc à la fin, cette pression, elle finit par faire son petit bout de chemin, malgré la réalité du terrain qui, effectivement, comme on vient de l'entendre dans l'extrait sonore, est pas du tout celle-là. Donc cette pression médiatique permanente, ça mine un peu le moral, donc ils ont besoin de soutien. Je pense que cette manif assez importante leur a apporté aujourd'hui ce soutien, et que les étudiants vont continuer à aller les voir pour essayer de nouer des liens avec eux. Voilà, c'était tout pour les cheminots.
Et puis c'était un peu tout pour nous passer le mot. On rappelle que encore une fois qu'il faut nous faire remonter les informations, qu'il y a une permanence toute l'après-midi au 04 78 29 26 00 et qu'en tout cas s'il y a personne, il y a un répondeur où vous pouvez laisser des messages 04 78 29 26 00 si vous êtes sur le terrain, si vous sortez du nager, que vous avez une info à faire passer. On est là pour ça et il y aura un nouveau point d'information ce soir à 19h. Et donc demain à 13h. Et pour se quitter, un petit portrait de cheminot qui a été réalisé sur un piquet de grève de Lyon aussi. Ça dure 10 minutes. Et voilà. Et après, les bandes continuent sur Radio Canu. Salut.
Ciao.
Bon, j'ai un souvenir de cheminot. C'était en 95 exactement. Juste avant les grandes grèves. Et je venais d'être nommé agent de conduite, conducteur de train. Et la nuit du 31 décembre au 1er janvier, je m'étais retrouvé à Saint-Quay. Alors Saint-Quay, il faut savoir que c'était le triangle de ferroviaire qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Nevers. Et ce soir-là, enfin ce 31 décembre, je suis arrivé à 14h à Saint-Quay. J'étais dans un foyer lugubre, hein. Il faut voir les foyers de la SNCF qu'on a où on dort là-dedans. J'étais tout seul et je suis arrivé à 14h et je suis reparti le lendemain à midi. J'étais tout seul toute la nuit, tout seul la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et à minuit, je m'en souviens toute ma vie, j'étais encore debout, je me suis dit quand même, je vais me souhaiter la bonne année. J'ai pris un miroir et je me suis souhaité bonne année. Quand on me dit qu'on est privilégié, je suis désolé quoi. J'ai dû passer les fêtes de Noël et Nouvel An en famille. Depuis 82, j'ai dû en passer, allez, on va dire, une dizaine, quoi, en 2007, quoi. Moi, j'ai deux enfants, bon, maintenant, ils sont grands, ils ont dû voir leur père à Noël et à Nouvel An, on va dire 5-6 fois, quoi. J'ai dû passer Noël 5-6 fois, quoi. Ça n'a pas été, ça, puis les congés. Alors, les congés, c'était ou juin ou septembre. On avait une bonne époque, ce qu'on appelle une bonne période, qui dure 15 jours, c'est pas un mois, hein, c'est 15 jours, une fois tous les 4 ans. Voilà, 15 jours, on ne fait pas grand-chose, quoi. Sinon, c'est le mois de juin, le mois de septembre. Quand on pose des congés, ce qu'on appelle des congés individuels, bon, il faut les poser 2 mois avant et on n'est pas sûr de les avoir. Alors, il suffit d'un mariage, un copain, je sais pas, on peut aller faire un anniversaire ou, au fond, ne serait-ce que, je sais pas, moi, d'aller chez le dentiste ou aller chez voir un médecin ou, je sais pas, moi, prendre rendez-vous pour X raisons. Eh ben, des fois, on n'a pas, on n'avait pas moyen d'avoir, quoi. Moi, j'ai eu un mariage d'un collègue de boulot où j'ai pas pu aller parce que, bon, si je suis allé quand même, mais j'ai dû partir à 22h parce que j'attaquais à 23h30 pour aller faire un train pour descendre sous Grenoble. Voilà. Mais j'ai plein d'anecdotes comme ça, il faudrait que si j'avais le temps, j'écrirais ma vie, ça en ferait, je dis pas 10 tomes, quoi, mais on en serait pas loin, quoi.
Et pour les jeunes qui arrivent, tu penses que ça va être encore beaucoup plus dur?
Je pense que ça va être beaucoup plus dur parce que bon, là et en ce moment, parce que bon, il y a la réforme du fret et la direction d'entreprise a l'intention de réformer leur réglementation. Il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un règlement, on n'a pas le droit de travailler plus de 8 heures, enfin il y a des règlements nuls. Et justement, la SNCF voudrait, pour être rentable, la SNCF est rentable, pour rentabiliser le fret, elle voudrait retirer sa réglementation. Aujourd'hui, on voit arriver de plus en plus des entreprises privées, hein, je parle de Veolia, WSI, qui arrivent sur nos voies, hein, sur les voies de la SNCF. Et ces gens-là n'ont pas de statut comme nous, on a un statut. Un statut, c'est-à-dire départ justement retraite à 50 ans. Notre RH 077, hein, c'est notre bible de la réglementation. Ces gens-là ne l'ont pas.
C'est du droit privé.
Non, c'est du droit. Eux, c'est du code du travail, quoi. Il n'y a rien. Ils n'ont même pas de convention collective. Moi, j'ai eu rencontré un conducteur de WSI qui passe son examen sur Bourg-en-Bresse. Déjà, m'a fait voir sa fiche de paye. Ça m'a fait sursauter. Hein. C'est une personne qui attaquait le matin, c'était en Berrieux-en-Bugey, à 2h du matin. Il montait à Clermont-Ferrand, il arrivait à 14h à Clermont-Ferrand, il dormait à l'hôtel de 14h jusqu'à 18h, il reprenait son service à 18h, il repartait sur Bourg-en-Bresse, il arrivait à 2h du matin en Berrieux. Et ça, c'est dans le privé, il faut le savoir ça. Ces gens-là, ils conduisent des trains de 1000 tonnes, et ils croisent des trains de voyageurs, ils sont fatigués, et bon, ils sont au niveau sécurité, bon, je ne veux pas aller voir ce qui se passe chez eux, parce que les formations, je ne les connais pas, et on a des doutes sur les formations, ils sont tout seuls dans leur train, ils sont tout seuls, enfin, nous aussi, mais bon, il y a quand même des chenous dans les gares et compagnie, et c'est des gens qui sont exploités au maximum, et puis il faut voir leur fiche de paye, c'est lamentable, quoi. Alors, le copain me disait, oui, mais moi j'ai les tickets restaurants. Bon, ça fait rire, quoi, les tickets restaurants. Bon, on les a pas, les SNCF, hein, faut pas croire. Mais c'est des gens qui gagnaient, allez, on va dire, entre 1400 et 1500 euros par mois. Il faut voir les horaires qu'ils font. Ils travaillent la nuit, ils travaillent le dimanche aussi, ils travaillent les jours de fête aussi. Bon, nous, on gagne un peu plus, heureusement. Parce qu'on s'est battu, on a un statut. Justement, c'est ça aussi qu'on se défend, joli. Hein. Et puis bon, on a choisi un métier quand même qui est assez dur, en sachant qu'on part à la retraite à 50 ans pour les roulants et 55 ans pour les sédentaires. Justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se bat, parce que bon, on a signé un contrat, on fait notre boulot correctement, dans les meilleures conditions de sécurité. On s'est toujours battu pour gagner notre réglementation et notre fameux RH 077. C'est notre bible sacrée au niveau de la réglementation du travail, du temps de conduite, les repos, tout ce qui touche à notre travail. Aujourd'hui, si jamais le projet de réforme passe, c'est tout à la poubelle, on devient du droit privé, quoi, du code du travail pur et simple. Et puis après ça, bah, c'est ouvert au libéralisme. Et puis sur les voies SNCF, on va y foutre des trains de tout et n'importe quoi, comme on fait aujourd'hui sur les autoroutes avec les camions. Et puis après ça, il ne faudra pas s'étonner qu'on arrive à des accidents graves, comme il s'est passé en Angleterre à une certaine époque, où aujourd'hui d'ailleurs les Anglais sont venus en arrière au niveau de l'infrastructure. Et on risque de se retrouver comme il s'est passé en Angleterre, c'est-à-dire des accidents graves, et là avec des morts de personnes. Quoi. C'est plus du fret qui. Bon, les accidents de train de fret, ça peut arriver, ça arrive, c'est de la casse, c'est du matériel, on va dire, c'est pas gênant. Et dès qu'on met des voyageurs, ça devient catastrophique. Hein. Moi, je ne vous rappelle pas l'accident de la gare de Lyon, Saujac, et ainsi de suite. Dès qu'il y a eu un train qui a un accident, c'est pas un ou deux morts, c'est des trentaines, quarantaines, cinquantaines, voire des centaines, comme c'est arrivé à la gare de Lyon. Il ne faut pas l'oublier, ça.
Mais c'est un choix politique, c'est un choix de société.
C'est un choix politique. Aujourd'hui, on va vers l'ultralibéralisme. C'est quoi? C'est du pognon. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de pétrole, que l'avenir pour le transport, c'est le ferroviaire. Hein, quoi. C'est pour dire ce qu'il est. Quoi. Il y aura moins de camions sur les routes. Il faudra quand même transporter des marchandises. Et qui va transporter les marchandises, c'est le train. C'est le train. Le train est alimenté par l'électricité. Un train nucléaire, c'est possible, il n'y a pas de souci. On va aller carrément priver. On voit hein, aujourd'hui, moi je vois des trains Veolia, je vois des trains WSI, je vois des trains, bon j'en passe déjà, c'est des pas mûrs. Même la SNCF aujourd'hui va chez le concurrent à côté en Belgique, hein, faut pas l'oublier, hein, d'ailleurs c'est une honte. On voit l'Allemagne aujourd'hui avec la DB qui a envie de tout récupérer le marché du fret au niveau de l'Europe. Hein. D'ailleurs, on s'est toujours dit, nous, à Sudrail, on s'est toujours dit, il y a l'ADB d'un côté qui va se récupérer le fret, et la SNCF de son côté qui va récupérer tout ce qui est voyageur, avec le TGV, avec... Bon, le TER, c'est autre chose. Le TER, c'est géré par les régions. Tant qu'on a des régions qui ont, sont un petit peu à gauche, parce que, bon, aujourd'hui, c'est pas tout à fait à gauche, on a encore un peu de chance à faire sortir. Mais c'est vrai qu'à partir des prochaines conventions qui vont être signées, on s'attend à voir arriver les concurrents, quoi. Ce sera les Bouygues, les Veolia, d'ailleurs Veolia en train de regarder sur la région un marché. Et d'après ce que je sais, ils ont déjà proposé 20% moins cher par rapport à ce qu'on fait nous.
La France avait l'un des plus beaux, plus grands réseaux ferrés du monde, hein. Ouais. Je crois qu'on peut le dire.
Ce qui est intéressant, c'est quand on dit AV, ça c'est vrai, la France était un des meilleurs réseaux ferrés mondial au niveau sécurité. On était les meilleurs, quoi, faut dire, c'est fou de dire ce qu'il est. Aujourd'hui, on se rend compte que bon, les cheminots, c'est un des derniers bastions, faut dire, au niveau du social. Les cheminots aujourd'hui luttent, pourquoi? C'est pour la sécurité, c'est bon, c'est déjà pour leur boulot, quoi, faut être clair, pour leur travail, et c'est aussi pour leur savoir-faire. On a un savoir-faire quand même, on a, au niveau sécurité, qui on peut pas contredire, quoi. Aujourd'hui, c'est bien ça, c'est la SNCF, c'est quoi? C'est la sécurité. Et on se bat pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'État, par le biais de la direction d'entreprise, hein, faut pas croire, on nous dit oui, c'est l'État, mais c'est aussi la direction SNCF. Hein. Je rappelle quand même qu'Anne-Marie Drac, à une certaine époque, était quand même secrétaire d'État dans le gouvernement, en 1995, dans le gouvernement de Juppé. D'ailleurs, aujourd'hui, on se demande pourquoi, enfin, elle est liée à la direction SNCF, je crois qu'elle a des comptes à nous rendre. On se rend compte qu'aujourd'hui, on met des gens de ultra-libéraux, il faut dire ce qu'il est, c'est ultra-libéraux, à l'intérieur de notre entreprise publique, pour tout casser, quoi. Et une fois tout cassé, on va faire le système à la tatière. Ils vont récupérer une partie de l'infra parce que la partie de l'infra coûte très cher. Ce qu'ils font aujourd'hui avec les autoroutes, hein. Qu'est-ce qui paye les autoroutes aujourd'hui? C'est l'État, c'est le prix, enfin, c'est vos impôts, c'est nos impôts. Et puis on fait rouler dessus des camions privés. Demain, il n'y aura plus de camions, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le réseau ferroviaire, on remet à jour, comme ça s'est fait en Angleterre, puis comme ça se passe aujourd'hui. Avec l'argent de qui? Avec l'argent de l'État, avec l'argent de nos impôts, et sur ces voies ferrées, on fera circuler les trains privés. Voilà.
Et la boucle est bouclée.
Et la boucle est bouclée, comme on dit, c'est tout à fait.